On va plus loin à présent dans l'essentiel avec Patricia Lémonière. Bonjour Patricia.
Bonjour.
Et Anne Corpey. Bonjour Anne.
Bonjour.
Au sommaire, Marine Le Pen sera bien fixée sur son sort avant l'élection présidentielle de 2027. Si l'on en croit la Cour d'appel de Paris, la justice se dit prête à tenir un procès et rendre une décision de deuxième instance d'ici l'été de l'année prochaine. Et puis la relance des relations entre la France et l'Algérie au lendemain d'un appel entre Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron. Le président français réunit à l'Élysée les ministres concernés par les dossiers en cours avec Alger, signe de l'importance qu'on donne à cette reprise des relations côté français. C'est tout de suite, on va plus loin. C'est donc un nouveau coup de théâtre dans un feuilleton qui pourtant n'en manquait pas. C'est donc dès l'été 2026, soit bien avant la prochaine élection présidentielle, que Marine Le Pen devrait être fixée sur son sort. La Cour d'appel de Paris, pressée de toutes parts, n'a pas tardé à réagir. Au lendemain même de la condamnation de la candidate putative du Rassemblement national à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire et donc immédiate, la juridiction de second degré se dit prête à rendre une décision d'ici l'été de l'année prochaine. La justice française qui fait preuve pour l'occasion d'une particulière diligence, inhabituelle diront les mauvaises langues, en tout cas rarement observée pour nombre de justiciables. Patricia Lémonière, c'est souhaitable et bienvenu ou bien la preuve d'une justice à deux vitesses ?
Non, je pense que dans le contexte actuel, c'était souhaitable. En tout cas, ça va donner tort à tous ceux qui, à l'international, je me permets donc d'y revenir, disaient que, ma foi, la France c'était pas une démocratie, c'était un pays où c'était les juges qui gouvernaient, etc. Là, on voit bien, et ça le démontre, que finalement, la France a des mécanismes. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas toujours de critiquer notre pays, de dire soit, effectivement, c'est un pays non démocratique, soit, etc., etc. En fait, notre pays est plein de ressorts, a plein d'astuces, et là, ça le montre encore. Et j'avoue que j'ai une certaine fierté quand même à dire que la justice française est capable de se remuer quand elle le peut, oui, quand elle le veut, et quand il y a peut-être, effectivement, une pression, mais surtout une pression populaire, elle sait répondre, finalement, et non pas tant à l'appel de Gérard Darmanin ou de ce qu'on pourrait croire, mais d'une pression populaire. Et donc ça, c'est plutôt sympathique, j'ai envie de dire.
Ah, il faut dire que ce jugement a mis la tutelle politique dans l'embarras. On a entendu ces dernières, même pas 24 heures, oui, depuis le jugement d'hier, Anne Corpey, le ministre de la Justice, s'exprimer jusqu'au Premier ministre. Aujourd'hui, il y a des pressions sur le cours de la justice à défaut d'interférence sur le jugement lui-même.
Moi, je crois qu'il y a surtout de la part de la justice une volonté de contrecarrer la stratégie mise en place par Marine Le Pen, stratégie victimaire qui a donné des résultats dans d'autres pays. Je pense évidemment à Donald Trump qui n'a pas cessé de parler, des termes employés aussi par Marine Le Pen, de chasse aux sorcières, de dénoncer le manque d'indépendance des procureurs, etc. Donc on a vu Marine Le Pen s'engouffrer dans cette brèche. Et la justice répond, non, on va répondre à vos questions. Et je remarque aussi que sur le fond du dossier, Marine Le Pen s'est peu exprimée. Il y a quand même un jugement de 152 pages. Il n'en a pas été question une minute ou si peu lors de l'intervention de Marine Le Pen hier soir. Donc je pense que la Cour d'appel a bien compris qu'il fallait répondre à cette stratégie qui risquait de fonctionner.
Au point, Marine Le Pen de sembler convaincue qu'un éventuel arrêt d'appel lui donnerait cette fois raison et ne la condamnerait pas définitivement. C'est à double tranchant quand
même. Oui, mais dans les cas précédents, on voit bien que chaque fois, regardez Juppé, regardez les autres, les peines sont chaque fois plutôt allégées dans ce genre d'affaires et quand il y a eu des appels. Non, mais moi, je pense que la justice... Il y a cette accusation aujourd'hui qui est lourde, quand même, qui pèse sur la justice et sous la pression du politique, et c'est les juges qui font la politique. Je crois qu'il faut qu'on fasse très attention. Dans le jugement de la juge, enfin, qui a rendu, qui était collégiale, on est bien d'accord, il y a deux façons de voir le jugement. Soit elle a appliqué le droit, complètement le droit, et que le droit, et ma foi, elle a manqué un peu d'auteur politique en disant que, ma foi, il fallait peut-être prendre un contexte. Soit elle a eu une vision politique du monde, et dans ce cas-là, elle a aussi manqué complètement de jugement, parce qu'elle n'a pas rendu compte de ce que ça a entraîné. Donc on peut prendre cette affaire des deux côtés, et je crois qu'il faut quand même qu'on garde raison, qu'on dise que notre justice aujourd'hui vient faire preuve qu'elle a des ressources. Ma foi, c'est pour tous les justiciables, et certains qui attendent 2-3 ans avant d'être jugés aimeraient bien être Marine Le Pen ce soir.
C'est finalement tout le problème. En tout cas, les soutiens à l'étranger de Marine Le Pen, hein, eux ne retiennent pas. En tout cas, ils ne retiennent pour l'heure que...
Ils ne retenaient
que...
pas.
Oui, alors déjà, mais la seule chose qu'ils retiennent, ce n'est pas ce jugement en appel, c'est ce qu'ils estiment être l'injustice qui est faite à Marine Le Pen, cette mise sur la touche de la favorite à l'élection présidentielle. Et comme par hasard, évidemment, elle est représentante de leur camp, hein, le camp nationaliste, le tour des réactions avec Jordan Klein pour France 2.
C'est ici, depuis la Maison Blanche, que Donald Trump réagit pour la première fois à la condamnation de Marine Le Pen.
C'est une grosse affaire. Elle a été interdite de se présenter pendant 5 ans et elle est la principale candidate. Cela ressemble à notre pays. Cela ressemble beaucoup à notre pays.
Même indignation pour l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro. Il a lui aussi été condamné. Il y a une peine d'inéligibilité dans son pays.
J'espère que Mme Le Pen arrivera à surmonter cette persécution et qu'elle pourra se présenter à la prochaine élection présidentielle. C'est au peuple de décider. Nous sommes à vos côtés, Mme Le Pen.
En Russie, le Kremlin dénonce via son porte-parole une violation des normes démocratiques. Allié de Moscou et du Rassemblement national, le Premier ministre hongrois Viktor Orban parle d'une cabale et écrit sur X « Je suis Marine ». Chez nos voisins italiens, Matteo Salvini, le vice-premier ministre, publie cette photo avant d'écrire.
Ceux qui craignent le jugement des électeurs cherchent souvent à se rassurer par celui des tribunaux. À Paris, ils ont condamné Marine Le Pen et aimeraient l'écarter de la vie politique.
Aux Pays-Bas, le patron de l'extrême droite, Geert Wilders, s'est lui dit choqué par un jugement incroyablement sévère.
Anne Corpet, on a coutume de dire qu'on juge l'arbre à ses fruits. Les soutiens de Viktor Orban, de Geert Wilders, de Jair Bolsonaro disent quelque chose de Marine Le Pen et du Rassemblement national ?
Bon, elle n'est pas forcément comptable de ses soutiens, mais on note qu'elle n'en rejette aucun. Elle n'a d'ailleurs pas pris ses distances, par exemple, avec le Kremlin, qui a été le premier à réagir à sa condamnation, à la dénoncer, alors que depuis l'invasion russe de l'Ukraine, elle tentait de se distancer par rapport à Vladimir Poutine. Elle n'est pas comptable réellement de ses soutiens, mais en fait, toutes les droites nationalistes, populistes se sont engouffrées dans la brèche pour dire, comme l'expliquait Patricia tout à l'heure, ils ont trouvé leur cause, la République des juges, la France, pays des droits de l'homme, haha, vous voyez. Bon, derrière, ils attaquent l'institution judiciaire, mais aussi le Parlement européen. Et puis, il faut noter quand même que parmi ces soutiens, il y a des gens qui ont eux-mêmes affaire avec la justice. Bon, Donald Trump, Bolsonaro, Salvini. Donc, c'est un peu des soutiens. Parfois, on comprend, parce que Marine Le Pen elle-même a tenté de se distancer de certains d'entre eux. Mais là, elle ne dit rien. Et on a l'impression, on va voir comment elle réagit à la décision de la Cour d'appel qui annonce qu'elle statuera bien en amont de l'élection présidentielle, mais elle a quand même complètement changé de stratégie entre sa quête de respectabilité, son respect absolu des institutions, et puis depuis le jugement hier, c'est haro sur la justice, et elle a adopté un ton vraiment en rupture, je trouve, avec celui qu'elle avait auparavant.
Cette condamnation et ses soutiens, ils nuisent à la quête de respectabilité du Rassemblement national, ou bien, foutu pour foutu, pardonnez-moi l'expression, Marine Le Pen va achever sa mue trumpienne, assumer peut-être ce que jusqu'à présent, ce envers quoi elle se méfiait finalement, ce mouvement venu notamment des États-Unis,
alors,
Patricia Lémonière.
Je ne sais pas si elle est trumpienne, si Bardella est plus trumpien qu'elle ne l'est, puisque lui a une dominante économique libérale qui le rapprocherait plus peut-être du trumpiste que Marine Le Pen, qui est quand même un côté très social hein, dans sa vision économique, de la France.
Oui.
Je pense que... avec ce changement, hein, avec ce procès qui va avoir lieu en 26, ses soutiens pourraient presque l'embarrasser, parce que tout le monde, à part le noyau très dur de son électorat qui se reconnaît dans Trump, qui se reconnaît dans Orban, etc., En fait, l'électorat, autour du noyau dur, l'électorat n'est pas trumpiste. L'électorat n'est pas pour Orban. Ce qu'ils aiment, c'est ce côté socialo-nationaliste de Marine Le Pen, la maman de la patrie. Mais ils ne sont pas trumpistes. Et quand ils vont voir, surtout, ce qui risque de nous... les conséquences de la politique menée par Trump sur le porte-monnaie des Français, je pense que ces soutiens vont être finalement peut-être plus embarrassants. Un soutien de Trump serait plus embarrassant pour Marine Le Pen qu'un non-soutien de Trump.
Un dernier mot peut-être, si l'on tente de reprendre les arguments de ses soutiens à l'étranger, peut-on comparer la mise hors jeu de Marine Le Pen par la justice avec, par exemple, l'interpellation en Turquie du leader d'opposition Ekrem İmamoğlu, c'est-à-dire, en gros, ce que vous reprochez à des quasi-dictateurs ou des dirigeants autoritaires comme Recep Tayyip Erdogan à l'étranger, eh bien, c'est la même chose que vous faites ici en France.
On l'a pas mis en prison, elle n'a pas été déchue de son mandat, elle peut toujours s'exprimer à l'Assemblée, ce qu'elle ne manque pas de faire. On ne lui a pas retiré son diplôme d'avocate, à ce que je sache. Je ne crois pas qu'on peut comparer l'état de droit en France avec l'état de droit en Turquie. Et je ne pense pas que la condamnation de Marine Le Pen jettera dans la rue autant de monde que ce qui se passe en Turquie actuellement avec l'emprisonnement du maire.
On va voir dimanche, ils appellent à des manifestations.
Oui, ils appellent à des manifestations et je pense que ça va être compliqué pour le RN s'il y a des fauteurs de troubles, notamment dans ces manifestations.
Mais effectivement, ce qui pose problème dans ce qui est en train de se passer sur un plan international, c'est l'attaque frontale de beaucoup de pays, dont les États-Unis, de la justice. Je veux dire qu'à un moment donné, même si les juges ne sont pas tous parfaits, et là, l'histoire jugera sur ce qui s'est passé, je crois qu'il est fondamental que mettre notre justice, il faudrait qu'elle ressorte même renforcée, encore plus indépendante qu'elle ne l'est, avec des garde-fous, parce que la procédure d'appel est un garde-fou. Alors, c'est la question de cette loi sur l'inéligibilité immédiate qui est posé ce soir plus qu'autre chose, je pense. Et là, peut-être qu'il y a des réflexions qui sont même en cours au niveau politique pour revoir cette question d'immédiateté de l'inéligibilité. C'est là qu'est le problème. Parce que notre système juridique, il est basé sur le recours. Et là, avec l'immédiateté, il n'y a plus de recours.
C'est surtout l'exécution provisoire, le problème.
L'exécution provisoire et l'immédiateté de l'exécution.
Et un dernier mot sur ces soutiens de l'étranger. Je trouve que on peut s'inquiéter sur les ingérences à venir de certains de ces soutiens de Marine Le Pen dans le cadre de la prochaine campagne pour l'élection présidentielle. Et je pense évidemment à Elon Musk, qui a tenté de peser de tout son poids sur les élections déjà dans d'autres pays européens, en Allemagne notamment, et qui pourrait mettre son réseau, sa puissance, ses moyens financiers à contribution pour faire élire Marine Le Pen, en qui il voit une nouvelle égérie.
Même si le financement des partis en France est public, et donc c'est quand même un garde-fou, une protection.
C'est un vrai garde-fou, et je veux dire, on a quand même la chance d'avoir dans ce pays quelques garde-fous.
Et il faut rappeler qu'une justice indépendante, ça fait partie de la démocratie, et que
mais elle est perfectible, on va dire.
Elle est perfectible, mais ces personnes de l'étranger, ces dirigeants qui dénoncent, qui appellent de leur vœu une justice populaire, c'est contraire à la démocratie.
C'était hier, annonce surprise d'une reprise du dialogue franco-algérien au plus haut niveau, puisqu'Emmanuel Macron s'entretenait au téléphone avec son homologue Abdelmadjid Tebboune. Ce mardi, le président français a joint le geste à la parole en réunissant plusieurs ministres en première ligne dans ses relations. On voit ça avec Cécile Galluccio et dans un instant, le journaliste Farid Alilat nous joindra.
Au lendemain du fameux coup de fil, signe de réchauffement des relations entre Paris et Alger, l'heure est aux explications.
L'échange hier entre le président de la République et son homologue algérien a ouvert un espace diplomatique qui peut nous permettre d'avancer vers une résolution de la crise.
Une résolution qui pourra être discutée en personne par Jean-Noël Barrot, puisque son déplacement dans la capitale algérienne a été acté. Il se fera le 6 avril prochain. Quant aux présidents français et algériens, ils ont prévu de se rencontrer sans en préciser les contours. Serait-ce donc l'éclaircie après la tempête? En tout cas, un début de désescalade. Selon ce communiqué conjoint, les deux présidents ont eu un long échange franc et amical. Ils ont réitéré leur volonté de renouer le dialogue et ont convenu de la reprise sans délai de la coopération sécuritaire.
Nous allons saisir cette opportunité dans l'intérêt de la France au sujet, bien évidemment, de la détention sans fondement de notre compatriote Boualem Sansal.
Boualem Sansal, c'est l'un des sujets qui a cristallisé les tensions entre les deux pays ces derniers mois. En novembre 2024, l'écrivain franco-algérien est arrêté en Algérie pour atteinte à la sûreté de l'État, provoquant la colère de Paris. Cette reprise de contact pourrait renforcer la probabilité d'une prochaine libération de l'écrivain. Autre sujet de discorde, le Sahara occidental. Le 30 juillet 2024, Emmanuel Macron reconnaît officiellement la souveraineté marocaine sur le territoire. Cette fois, c'est Alger qui s'insurge.
La démarche française ne sert pas la paix au Sahara occidental.
S'ensuit le débat sur les obligations de quitter le territoire dans la foulée de l'attentat de Mulhouse le 22 février dernier. L'auteur présumé était un Algérien sous OQTF, précédemment refusé par Alger.
Il n'y aurait pas eu d'attentat si l'Algérie avait respecté le droit.
Bruno Retailleau, qui avait pris beaucoup de place dans la brouille entre Alger et Paris, semble désormais avoir été mis à l'écart. Emmanuel Macron a repris la main.
Et je vous le disais, avec nous pour en parler, le journaliste Farid Alilat, auteur d'Un crime d'État, règlement de compte au cœur du pouvoir algérien. Ça vient de paraître chez Plomb. Bonjour Farid Alilat, merci d'être avec nous. Pour signe de bonne volonté d'Alger, Paris attend une grâce pour l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, qui a été condamné, hein, il faut le rappeler, la semaine dernière à 5 ans de prison ferme.
Je pense que la grâce qui normalement devrait intervenir la veille du voyage du ministre des Affaires étrangères.
Jean-Noël Barrot.
Parce qu'elle devrait intervenir vers le 5, parce qu'il y a un délai. C'est-à-dire que lui, Boualem Sansal, qui, je précise, n'aurait jamais dû être jeté en prison. Donc, lui n'a pas fait appel, le parquet n'a pas fait appel. Donc, la décision devient définitive. Son jugement devient dans la définitive dans un délai de 10 jours. Et à ce moment-là, la grâce présidentielle pourrait intervenir. Donc, elle pourrait intervenir la veille de la visite du ministre français des Affaires étrangères. Et c'est un bon signe. Parce que cette affaire, elle a aggravé cette crise.
Oui, quel sera l'ordre du jour, justement, de cette visite durant le week-end?
Celle de Jean-Luc?
Oui.
On ne sait pas encore quel sera l'ordre du jour.
On n'a pas encore les
jour.
Détails. Hein.
Mais déjà il va rencontrer son homologue algérien. Et ensuite, peut-être, probablement, il sera reçu par le président Abdelmajid Bouteflika. Abdelmajid.
Tebboune,
pardon. Et ce serait aussi, là aussi un signe d'apaisement. Le fait qu'il puisse être reçu par le président serait un signe d'apaisement.
Vous avez compris que ce coup de téléphone intervienne hier?
Oui.
Pourquoi?
Alors, il faut savoir.
On avait l'impression d'atteindre un point de non-retour, hein,
oui,
dans la dégradation.
Parce qu'il faut préciser une chose, les deux hommes ne se sont pas parlé depuis 8 mois. La dernière fois qu'ils se sont vus, c'était à Bari, en Italie, lorsque Emmanuel Macron annonce à Abdelmajid Tebboune la décision de soutenir la souveraineté du Maroc.
Maroc sur le Sahara occidental.
Donc, à ce moment-là, pendant cette rencontre, il y a eu un clash, parce qu'il y a beaucoup de tensions entre les deux présidents, et depuis, ils ne se sont plus parlé. Et même, je peux vous dire que Emmanuel Macron a essayé à 3 ou 4 reprises d'appeler son homologue algérien, celui-ci a refusé de lui parler. Or, donc, ils ne se sont pas parlé depuis 8 mois. Or, la singularité de la relation franco-algérienne, depuis la visite de Macron en Algérie en août 2002, repose essentiellement sur l'amitié entre les deux présidents. L'amitié, la confiance, le contact. Et donc, ils se parlaient régulièrement, ils se tutoient. Et donc, les deux présidents sont les moteurs de ce partenariat. Et
avec parfois des mots très durs, hein. Il était question même de rente mémorielle.
Enfin, oui, bien sûr. Choses. Mais quand ils se parlent, les choses se détendent. Mmh. Quand ils ne se parlent pas, quand il y a des bouderies, des fâcheries, et donc la crise s'installe et les tensions augmentent. Et on l'a vu, en 2023, quand la ressortissante franco-algérienne a été exfiltrée. Donc, oui. il y a eu une crise. Donc, oui. Les deux présidents ne se sont pas parlé. Et dès lors qu'ils se sont parlé, il y a eu la tension qui a baissé.
Vous restez avec nous, Farid Alilat. Vous comprenez, vous, ce degré de personnalisation dans la relation entre deux pays qui ont quand même une histoire commune longue, faites jalonner hein, de crises, bien sûr, mais avec tout de même des tendances de fond et qu'elles soient aujourd'hui à ce point dépendantes de l'humeur, finalement, de la relation entre deux personnes.
Alors, je dirais qu'elle n'est pas dépendante de l'humeur de la relation entre deux personnes. Les relations entre la France et l'Algérie sont des relations en yo-yo, je dirais. C'est en haut.
Traditionnellement.
Par tradition. C'est des fâcheries, des bouderies, enfin, vous appelez. Là, avec Emmanuel Macron et Tebboune, il y a une relation qui est particulière,
oui,
qui est vraiment liée à ces deux hommes qui se sont rencontrés. Je partage totalement votre point de vue. Ça n'a rien à voir avec les anciens présidents. Là, il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui a fait qu'il y a eu un lien. Emmanuel Macron, de toute façon, lui est complètement dégagé de tout ce qui était du passé colonial français. D'ailleurs, il l'avait dit avant, alors qu'il était...
Il a parlé de crimes contre l'humanité.
Oui, hein. Alors qu'il faisait pratiquement campagne en France pour être futur président, il avait déjà évoqué ce genre de choses. Donc avec Tebboune, ça s'est toujours très bien passé. Là, effectivement, après, il y a eu plus qu'une fâcherie. Pour l'Algérie, si vous voulez, je crois que sur l'histoire du Maroc, j'en terminerai par là, les Algériens pensaient que ça irait plus lentement, cette histoire de reconversion ou de déséquilibre, finalement, de la politique étrangère française. C'était très brutal, ça s'est produit rapidement. Ouais. Et ça n'a pas été admis.
Anne Corpet, on peut revenir d'un pas aussi fort que celui franchi par la France l'été dernier sur le Sahara occidental?
Mais c'est intéressant de constater que ce dossier qui a précipité la crise n'est même pas évoqué dans le communiqué conjoint des deux présidents, comme si finalement le président Tebboune reconnaissait en creux qu'Emmanuel Macron ne reviendrait pas sur cette décision. En revanche, tous les autres dossiers qui ont fait l'objet de crises ou de crispations sont évoqués un par un. La sécurité, l'immigration, la coopération judiciaire, la question mémorielle, etc. Et il y a l'annonce, effectivement, de la visite du ministre des Affaires étrangères dès dimanche, celle du ministre de la Justice après, et puis il est acté que les deux présidents se reparleront. Mais dès le mois de février, je crois, quand il avait donné une interview à l'Opinion, le président Tebboune avait clairement dit que la balle était du côté de l'Élysée et qu'il fallait pour que le dialogue reprenne, qu'il soit initié au plus haut niveau. Emmanuel Macron s'y est résolu. Hier, il a décroché son téléphone en saisissant l'occasion de la fête de l'Aïd pour le faire. Et c'est aussi cette histoire, la mise sur la touche du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui a occupé une place très agressive ces dernières semaines.
C'est l'éléphant dans la pièce, Bruno Retailleau, parce qu'effectivement, on parle de Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, qui va se rendre donc ce week-end en Algérie. Une visite du ministre de la Justice, Gérald Darmanin, essentielle aussi sur cette question des OQTF, va être également à l'ordre du jour, plus généralement sur l'action de la coopération judiciaire d'ailleurs entre Paris et Alger, qui est présentée comme essentielle. Bruno Retailleau, il va se rendre en Algérie, il aura encore voix au chapitre sur ce dossier.
Non, je ne crois pas du tout. Il est indésirable en Algérie. Je ne pense pas du tout.
Lui a conditionné sa présence au gouvernement à sa capacité à agir et même à renégocier les accords.
Après les conséquences de cette désescalade aujourd'hui, désescalade, puisqu'on est dans un temps de désescalade, les conséquences vont être aussi de politique intérieure aussi. Parce qu'on l'a vu depuis le début de la crise, il y a manifestement deux voies, celle de l'Élysée et du Quai d'Orsay et celle du ministère de l'Intérieur. Et aujourd'hui, on sent qu'on est dans le ton diplomatique. C'est-à-dire que le Quai d'Orsay ou la présidence a récupéré le dossier, peut-être en désistissant le ministre de l'Intérieur de ce dossier. Donc il va falloir aussi...
Ce rabibochage
va avoir des conséquences ici,
politique
intérieure en France.
Oui, il va falloir traiter Bruno Retailleau, parce qu'en plus, avec le vide laissé ponctuellement par Marine Le Pen, on imagine que Bruno Retailleau ne compte pas délaisser le dossier algérien comme un marqueur politique.
Non, d'autant que je pense que le gouvernement a dit qu'il fallait repenser... on reste sur les accords de 2014, mais... On va repenser un peu tout ça. Donc, si vous voulez, c'est effectivement donner des gages, mais en même temps, c'est ne pas fâcher Retailleau, parce qu'on ne peut pas se permettre, dans la France d'aujourd'hui, le gouvernement ne peut pas se permettre d'avoir Retailleau qui claque la porte.
Oui.
Donc, on va repenser.
Et Retailleau doit présenter des résultats à son électorat.
Oui, alors, pour l'instant, l'électorat de Retailleau, il est un peu occupé par ce qui se passe avec Marine Le Pen, donc on va attendre.
Vous sous-entendez qu'il y a une porosité entre les électorats.
Il y a une porosité définitivement, et c'est bien pour ça que Retailleau intéresse le gouvernement.
Farid Alila.
On est passé d'une séquence à une autre. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, on parlait d'ultimatum, on parlait de graduation. Oui. On parlait, certains même appelés à la rupture des relations entre les deux pays. Et Gérald Darmanin, qui va partir bientôt en Algérie, demandait à ce que l'ambassadeur de France en Algérie soit rappelé.
Oui. Ouais.
Donc, on était dans
le... Et puis la question des visas diplomatiques aussi, que Gérald Darmanin a agité.
Oui, on était dans la tension, dans le bras de fer, dans l'outrance, dans la surenchère.
C'est fini.
Pour le moment, tout ça, c'est fini. Là, on est dans le ton diplomatique.
Ça veut dire plus d'exécutions de QTF dans les prochaines semaines?
On n'est pas là. C'est l'objet des discussions qui vont avoir lieu avec le ministre des Affaires étrangères et bien sûr avec Darmanin. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a eu une réunion à l'Élysée. Il est même question de réactiver cette fameuse visite de Tebboune en France qui devait avoir lieu mai 2023. Donc on reparlera très bientôt de cette visite, même si rien ne dit qu'elle se ferait.
Anne Corpet, on imagine tout de même qu'au sein de ce qu'un cas reste une majorité ici en France, même si elle est à peine à l'Assemblée nationale, l'aile droite va réclamer des résultats au gouvernement de cette négociation avec l'Algérie.
C'est déjà le cas, là. Ce soir, j'ai lu que Laurent Wauquiez, qui est en compétition avec Bruno Retailleau pour prendre la tête de LR, disait, Bruno Retailleau n'a agité que des petits muscles et il dénonce déjà la reprise du dialogue. Il y a vraiment un terrain sur lequel, effectivement, la droite dure s'exprime à ce sujet. Mais l'Algérie et la France ont bien trop de sujets en commun, de sujets importants en commun pour couper les ponts. Il y a une population algérienne très importante en France, on ne peut pas l'ignorer, ou d'origine algérienne, d'une population française qui est sensible à cette relation. Sur le plan politique, on ne peut pas l'ignorer. Et c'est pareil de l'autre côté.
Et si d'aventure demain un nouveau YouTuber, Doualem ou un autre, devait être expulsé vers l'Algérie, quelle serait la réponse des services algériens?
On n'est jamais à l'abri d'un grain de sable, un fait divers ou une affaire, ou même des propos peuvent provoquer une crise. C'est ce qui s'est passé en 2021 avec les propos de Macron dans Le Monde qui ont provoqué le rappel de l'ambassadeur. Oui. Ce qui s'est passé avec l'affaire de la ressentissement de franco-algérien, ça a déclenché une crise. Et donc on n'est jamais à l'abri. La relation est très fragile. Oui. Elle l'est encore plus maintenant avec toute cette séquence qui a duré 8 mois.
Je terminerai en disant que les deux pays aussi ont besoin l'un de l'autre sur un plan diplomatique et international. L'Algérie a perdu une certaine base en Afrique et la France aussi. Et là, il y a une communauté quand même d'intérêt aussi.
Des relations on l'a vu d'ailleurs aujourd'hui avec un drone qui a été abattu à la frontière avec le Mali. Ça a été reconnu.
L'une des conséquences de cette crise, c'est la suspension de la coopération sécuritaire.
Oui.
C'est-à-dire que les deux pays
doivent coopérer
en matière de sécurité sur le Sahel, sur la mouvance terroriste en Syrie et aussi en France.
Merci beaucoup Farid Aïla d'avoir été avec nous. Merci également à Patricia Lémonière et Anne Corpet. On va plus loin. C'est terminé. Prochain journal dans 3 minutes dans l'essentiel.